Il est 5h30 en temps universel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire de cette édition de ce mardi 18 juin 2024, en RDC, la CENI critique sévèrement le rapport des églises catholiques et protestantes sur les irrégularités du processus électoral, un rapport publié 6 mois après les élections. En Algérie, des manifestations ont éclaté dans la région de Tiaret en raison d'une grave pénurie d'eau potable. Malgré les promesses du président Abdelmadjid Tebboune, la population exprime son ras-le-bol. Un envoyé américain est arrivé en Israël pour tenter de désamorcer les tensions entre ce pays et le Hezbollah. Vladimir Poutine effectue sa première visite officielle en Corée du Nord depuis plus de 20 ans. Dans notre Minute Éco, nous parlerons de l'accord de transport aérien entre le Cameroun et le Canada en attente de ratification. En sport, nous reviendrons sur les résultats des matchs de l'Euro 2024 et les performances attendues aujourd'hui, notamment du Portugal, de Cristiano Ronaldo. Enfin, dans nos magazines, nous irons au Nigeria, où une banque alimentaire lutte contre la crise du coût de la vie en collectant les surplus de production des agriculteurs. Dans un instant, le développement de tous ces titres, voici le journal. En RDC, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a vivement critiqué hier le rapport définitif d'observation du processus électoral publié par les églises catholiques et protestantes. Un rapport qui évoque de nombreux cas d'irrégularité 6 mois après la tenue des scrutins. Mohamed Oufa.
Dans le rapport final de l'observation électorale publié lundi à Kinshasa, les deux églises disent avoir constaté de nombreuses irrégularités susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des résultats des scrutins sans pour autant déclarer les élections frauduleuses. Le rapport souligne le cafouillage lors de l'attribution des sièges pour les législatives et dénonce le népotisme dans ce processus. Plusieurs politiciens ont réussi à placer les membres de leur famille dans différents postes électifs après les avoir alignés comme suppléants, a déclaré le révérend Eric Senga, secrétaire général de l'Église du Christ au Congo, principale fédération protestante. Présent dans la salle, Didi Manara Linga, deuxième vice-président de la CENI, a vivement critiqué ce rapport, affirmant que c'est une liste de ratés qui ne sont pas toujours du fait de la CENI et ne présente aucun élément comparatif par rapport aux cycles électoraux antérieurs, afin de souligner les progrès et les régressions, a-t-il déclaré. Il a rappelé que son institution n'avait pas hésité à sanctionner plus de 80 personnes impliquées dans de la fraude électorale sans tenir compte de leur rang.
La justice béninoise a condamné hier à Cotonou à 18 mois de prison avec sursis 3 ressortissants nigériens arrêtés la semaine dernière au port de Semekpodi dans un contexte de brouille diplomatique entre les deux pays. Les 3 accusés étaient poursuivis pour fausse attestation et usage de fausse attestation, mais la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a requalifié les faits en usurpation de titres et usage de données informatiques falsifiées. Tous les 3 avaient plaidé non coupables. Mamouzi Adira Ibra, la directrice générale adjointe de la société pétrolière WAPCO Niger, faisait partie des personnes condamnées. Elle a notamment expliqué que son équipe était venue dans le cadre du chargement du 2e navire de pétrole avec une autorisation du ministère des Mines et de l'Eau béninois. Ils ont été arrêtés le 5 juin sur le port béninois de Semepodio, lieu de chargement du pétrole nigérien pour exportation. 2 autres personnes également arrêtées au même moment avaient été relâchées vendredi. En Algérie, des manifestations et blocages de routes ont eu lieu dimanche et hier dans la région de Tiaret pour protester contre une grave pénurie d'eau potable, un problème que le président Abdelmadjid Tebboune avait promis de résoudre avant la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. Le point avec John Lindon.
De nouvelles manifestations ont eu lieu à Tiaret, à 280 km au sud-ouest d'Alger. Au moins 2 routes ont été bloquées par des pierres et des barricades entre Tiaret et les villes voisines de Frenda et Bouchkif. Depuis mai, les cours d'eau de cette région semi-désertique et le barrage de Barkeda, seule source d'approvisionnement, sont à sec, entraînant les premières manifestations avec des pneus brûlés et barrages routiers près de Tiaret. Le président Tebboune, qui n'a pas encore dit s'il sera candidat à un nouveau mandat à la présidentielle anticipée du 7 septembre, a ordonné au début du mois au ministre de l'Intérieur et des Ressources hydrauliques d'élaborer un programme de sortie des crises. Le lendemain, les deux ministres Brahim Merad et Taha Derbal se sont rendus à Tiared et ont présenté un plan pour résoudre le problème avant l'Aïd al-Adha. Vendredi, Derbal est retourné sur place pour la mise en service d'un système d'approvisionnement de la ville à partir des puits forés et raccordé au réseau. Cela a permis de résoudre le problème au centre-ville, mais pas dans d'autres quartiers.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des milliers d'Israéliens ont manifesté hier soir contre la conduite de la guerre à Gaza par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou et pour la tenue d'élections anticipées. La police israélienne a fait état de 9 interpellations, certaines liées, selon elle, à des violences contre les forces de l'ordre et indiqué que des policiers avaient été légèrement blessés. Cette manifestation intervient environ une semaine après la démission du cabinet de guerre des dirigeants centristes Benny Gantz et Gadi Essekot, deux anciens chefs de l'armée, ce qui a entraîné la dissolution de cette instance mise sur pied après l'attaque du 7 octobre. Un envoyé américain est arrivé hier en Israël pour faire pression en faveur d'une désescalade avec le Liban, un responsable israélien déclarant pour sa part que le Hezbollah a tiré plus de 5000 projectiles vers Israël depuis le début de la guerre à Gaza. Des précisions avec Dili Diko.
L'envoyé spécial du président américain Amos Hochstein a rencontré lundi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem quelques jours après que le secrétaire d'État Anthony Blinken a affirmé lors d'une tournée au Moyen-Orient qu'un cessez-le-feu à Gaza est le meilleur moyen de mettre fin aux violences entre le Hezbollah et Israël. Le Hezbollah a affirmé la semaine dernière avoir mené plus de 2100 opérations militaires contre Israël depuis le 8 octobre, au lendemain de l'attaque du Hamas. Les attaques du Hezbollah se sont intensifiées depuis la mort mardi d'un de ses commandants, Taleb Sami Abdallah, tué dans une frappe israélienne à Jouaïa, dans le sud du Liban. Lundi, l'armée israélienne a annoncé avoir tué aussi Mohamed Mustafa Ayoub, un autre leader du Hezbollah. Samedi, l'ONU a fait part de sa profonde préoccupation en raison de cette escalade. Plus de 8 mois de violence à la frontière israélo-libanaise ont fait au moins 472 morts au Liban, la plupart des combattants, mais aussi 91 civils, d'après des données du Hezbollah et des sources officielles libanaises.
Vladimir Poutine est en visite officielle en Corée du Nord ce mardi et demain mercredi. Il s'agit de la première visite du président russe dans ce pays depuis plus de 20 ans, ce qui souligne le rapprochement en cours entre Moscou et Pyongyang. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
Ce voyage a lieu 9 mois après que Vladimir Poutine a accueilli le dirigeant nord-coréen dans l'extrême-orient russe, une visite au cours de laquelle les deux hommes s'étaient couverts d'éloges, mais sans conclure d'accord, du moins officiellement. Ce sera différent cette fois, nord-coréens et russes signeront des documents importants, a indiqué lundi aux médias russes le Kremlin, qui évoque même la possible signature d'un accord de partenariat stratégique, selon le conseiller diplomatique du président russe Yuri Ushakov. Le maître du Kremlin sera notamment accompagné de son chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, de son ministre de la Défense, Andrei Bolosov, de deux vice-premiers ministres ou encore du patron de l'agence spatiale russe, Roscosmos. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en visite à Washington, a déclaré hier que ce voyage à Pyongyang montre à quel point le président Poutine et Moscou sont dépendants des pays autoritaires du monde entier. Leurs amis les plus proches et les plus grands soutiens de l'effort de guerre russe en Ukraine sont la Corée du Nord, l'Iran et la Chine. Après la Corée du Nord, Vladimir Poutine se rendra au Vietnam les 19 et 20 juin.
Le président russe Vladimir Poutine a par ailleurs assuré Pyongyang du soutien indéfectible de son pays face à l'ennemi rusé, dangereux et agressif et l'a remercié de soutenir l'opération militaire en Ukraine. Américains et Européens s'inquiètent depuis des mois du rapprochement accéléré de Moscou et Pyongyang accusant les Nord-Coréens de livrer des munitions à la Russie pour son assaut contre l'Ukraine en échange d'une assistance technologique, diplomatique et alimentaire. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui est en visite à Washington, a appelé hier à faire payer à la Chine le prix de son soutien à la Russie pour sa guerre en Ukraine et saluer la plus forte augmentation des dépenses militaires de l'Alliance depuis des décennies. La dirigeante de l'opposition au Venezuela, Maria Corina Machado, a dénoncé lundi les 37 détentions arbitraires de militants politiques avant l'élection présidentielle du 28 juillet. 10 des 37 personnes arrêtées sont membres de la direction de campagne de l'opposition et 6 autres sont sous protection à l'ambassade d'Argentine, a-t-elle souligné, révélant les noms de ses 16 collaborateurs. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Tournons maintenant notre attention vers le segment économique. Nous laissons la place à John Lindon.
Le Parlement camerounais planche sur un projet d'accord de transport aérien avec le Canada signé en 2022 et en attente de ratification. L'objectif de ce projet est de raffermir la coopération entre le Cameroun et le Canada dans le domaine du transport aérien et dans les secteurs liés comme le tourisme, les affaires et la logistique. Selon Investir au Cameroun, le Canada abrite l'une des plus importantes diasporas du Cameroun avec environ 14 000 Camerounais résidant au Québec. Le groupe audiovisuel français Canal+, filiale de Vivendi, dont la famille Bolloré est l'actionnaire principal, a fait un pas décisif dans sa marche vers le rachat du géant sud-africain de télévision payante MultiChoice. Selon le site Ecomatin.net, l'offre de la multinationale française a en effet été acceptée par le conseil d'administration du groupe sud-africain. Dans les tuyaux depuis des mois, ce projet de rachat est chiffré à 1,7 milliard d'euros selon la presse française. MultiChoice est valorisé à près de 2,7 milliards d'euros. Des mesures fiscales de protection sociale ont un rôle majeur à jouer pour contrebalancer les risques posés par l'IA et notamment une hausse des inégalités, a estimé le Fonds monétaire international lundi. Sans régulation, l'intelligence artificielle générative popularisée par ChatGPT et d'autres outils similaires pourrait provoquer des suppressions d'emplois chez les professions diplômées, souligne le FMI.
C'était tout pour les nouvelles économiques. Passons maintenant à notre rubrique sportive avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Des nouvelles de l'Euro 2024.
Oui, deux matchs au programme aujourd'hui. La Turquie fait face à la Géorgie et le Portugal de Cristiano Ronaldo affronte la République tchèque alors qu'il avait fini le mondial au Qatar dans la peau d'un remplaçant. Le quintuple ballon d'or est redevenu important pour le Portugal et devrait à nouveau guider les siens à Leipzig face à la République tchèque pour l'entrée en lice de la CELSAO à l'Euro 2024. Hier, la Roumanie a fait vivre à l'Ukraine des débuts cauchemardesques en gagnant 3-0 à l'Allianz Arena de Munich. La Belgique est tombée devant la Slovaquie 1-0. Amin Birouk nous fait le point des matchs de cet Euro qui ont débuté vendredi dernier.
Il y a eu des impressions mitigées entre la prestation XXL de l'Allemagne avec un super maestro, Toni Kroos, une victoire face à des Écossais qui n'avaient pas le niveau, 5-1, mais il fallait quand même tenir son rang de pays organisateur lors de ce match d'ouverture. Entre l'Espagne qui a changé de paradigme, moins de passes, moins de jeux horizontaux, plus de jeux dans la verticalité, moins de possession et plus d'efficacité devant le but, et une belle victoire face à la Croatie 3-0. L'impression que les Pays-Bas ont de la ressource, comme l'a démontré leur victoire à l'arraché devant la Pologne de Buzyn. Et puis, l'impression laissée par l'Angleterre qui a démarré petitement, poussivement la compétition. Une victoire grâce à un but de Jude Bellingham face à la Serbie. Et une équipe qui a refusé le jeu systématiquement pendant la deuxième mi-temps, préférant laisser venir les Serbes et construisant très peu d'actions concrètes. Il y a eu quelques approximations après le but de Bellingham, et une seule occasion nette, la reprise de la tête de Harry Kane sur la barre transversale. Ce qui est certain, c'est que les premiers favoris ont donné l'impression qu'ils démarraient pied au plancher dans la compétition, avec une réserve sur l'équipe d'Angleterre qui pourtant possède le plus beau réservoir du football européen et sur le papier est considéré par les spécialistes comme le favori numéro 1 dans cette compétition.
Merci Amine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie, nous entamons maintenant notre segment magazine. Le Nigeria est confronté à la pire crise du coût de la vie depuis des décennies. Les Nations Unies prévoient que 31 millions de Nigérians vont souffrir de la faim cette année. Une banque alimentaire de Lagos a commencé à établir des partenariats avec des agriculteurs pour collecter les excédents de production. L'objectif est de s'assurer que les produits finissent sur les tables des familles au lieu d'être gaspillés. Les détails dans ce reportage de Timothée Obiezu, le récit est de Rosine Munezero.
C'est le jour de récolte pour Johnny Darlington, un agriculteur, et des bénévoles de l'initiative de la Banque alimentaire de Lagos viennent acheter des produits qu'il ne pourra peut-être pas vendre. Le programme de banque alimentaire a été lancé l'année dernière pour réduire les pertes des agriculteurs et acheminer la nourriture vers les personnes souffrant de la faim.
La route est mauvaise. Avant que nous puissions sortir nos marchandises, certaines sont avariées. La distance entre le marché et Lagos, par exemple, où je me trouve, est très très mauvaise. Alors imaginez devoir attendre ou tomber en panne sur la route.
Les experts estiment que 40% de la nourriture produite au Nigeria est perdue, gaspillée ou avariée. Les mauvaises infrastructures routières, le coût élevé du transport et les mauvaises installations de stockage sont la cause. C'est là qu'intervient la Banque alimentaire de Lagos. Les produits sont transportés de la ferme à un entrepôt où ils sont nettoyés, triés et préparés pour la distribution. Cette semaine, des centaines de personnes d'un bidonville de Lagos ont bénéficié des repas gratuits de l'initiative ou de ce qu'ils appellent la boîte de l'espoir. Maria Francis est l'une des bénéficiaires.
Je me sens très heureuse. J'apprécie ce que vous avez fait pour nous. Je ne peux pas décrire ce que je ressens à moins que vous n'entriez dans mon cœur. Vous qui avez fait cela, vous ne voulez pas que nous allons mendier pour de la nourriture.
Cette intervention arrive à point nommé. Le Nigeria est aux prises avec sa pire crise du coût de la vie depuis des décennies, exacerbée par des réformes gouvernementales impopulaires, notamment la suppression de la subvention sur le carburant. Les Nations Unies estiment que 31 millions de personnes seront en situation d'insécurité alimentaire entre juin et septembre de cette année, durant la période de soudure. Michael Sanbola est le directeur exécutif de la Banque alimentaire de Lagos.
Le fossé alimentaire est important dans notre société et le fait que plus de 63% de notre population soit pauvre de manière multidimensionnelle et que de nombreuses personnes luttent encore pour se nourrir nous oblige à trouver des moyens très créatifs pour résoudre certains de ces problèmes urgents.
Sanbola affirme que le groupe a jusqu'à présent servi plus de 2 millions de personnes dans 170 communautés. La semaine dernière, le président Bola Ahmed Tinubu a déclaré qu'il est conscient des défis posés par ces réformes, mais qu'elles vont permettre de créer un meilleur avenir économique pour les Nigérians.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Gabon, un nouveau genre musical créé en milieu carcéral a conquis le cœur des amoureux de la bonne ambiance. Appelé Ntiam, ce mélange de rap, d'afrobeat et de sonorités traditionnelles d'Afrique centrale est devenu la musique préférée de la jeunesse gabonaise. Thierry Kaoré pour nous en dire plus.
Au milieu de la nuit, dans un maquis très branché du quartier de Charbonnage à Libreville, c'est au rythme de l'Ntiam que le DJ fait danser son public. Une danse née dans les prisons de la ville qui dépeint les réalités de la vie carcérale ainsi que les violences dans les quartiers populaires. Fallon Andambo Makata a réalisé un film documentaire sur l'Ancham.
L'Ancham est sorti de la prison pour se retrouver dans les rues d'abord. Et voilà, il faut comprendre que le Muncham, déjà à la base, ça veut dire la bagarre. Donc voilà pourquoi leurs pas, ils ont souvent les poings fermés comme ça.
Mais l'Ancham n'est pas qu'un style musical, explique Fallon Andambo Makata.
C'est carrément tout un univers, c'est tout un monde, parce qu'il y a le style vestimentaire. Ils ont un style vestimentaire bien à eux, les danseurs d'Ancham. Ils ont une manière de parler, une manière de se comporter. Et il y a aussi le pas de danse. Il y a aussi la musique.
Alors que la plupart des artistes gabonais manient la langue française dans leurs paroles, l'Ancham est chanté principalement en argot, une langue locale. Demantos est l'un des artistes qui chante l'Ancham.
On a toujours un petit côté qu'on ajoute, ce petit côté qui est appelé argot. Et le argot, c'est une langue de chez nous, c'est un peu utilisé par la nouvelle génération. Plus les jeunes, quoi, plus les jeunes. Et ce qui fait que c'est plus aussi souvent, plus les jeunes se retrouvent, quoi. Donc quand on fait un son, forcément les jeunes se retrouvent. On parle de ce qu'on voit au quotidien. Voilà, c'est de ce qu'on voit, qu'on explique dans les sons, même si les gens souvent ont tendance à prendre ça d'un mauvais côté. Mais c'est ce qu'on voit, qu'on explique.
Faut qu'il renforce le mental, y a trop de gens qui peuvent pousser un homme à se suicider.
Mais Fallon Andambo Makata, la réalisatrice du film documentaire sur l'Ancham, dit que certains rappeurs sont réticents.
Il y a des rappeurs qui ne sont pas favorables, non seulement à l'Ancham, mais en plus qui considèrent que les messages véhiculés dans l'Ancham font l'apologie des mauvaises mœurs.
Malgré cela, l'Ancham continue son ascension, non seulement sur les plateformes digitales, avec des centaines de milliers d'écoutes, mais aussi et surtout dans les soirées gabonaises où les danseurs ne peuvent plus s'en passer.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville. Le débat sur le droit à l'avortement divise la politique américaine depuis des décennies. Mais deux ans après que la Cour suprême des États-Unis a annulé l'arrêt Roe contre Wade, renvoyant la décision aux 50 États, un nouveau front s'est ouvert. Le débat sur le contrôle des naissances. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, décrit la bataille électorale sur la contraception et la fécondation in vitro. C'est un récit de John Lyndon.
Les électeurs préoccupés par le droit à l'avortement ont joué un rôle majeur dans la victoire des démocrates lors des élections de mi-mandat de 2022. Aujourd'hui, deux ans après que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit constitutionnel à l'avortement, les démocrates affirment que les droits reproductifs sont en jeu dans les élections de 2024. Chuck Schumer, chef de la majorité au Sénat.
Nous devons voir l'horrible vérité en face. Les femmes ont malheureusement moins de liberté aujourd'hui qu'il y a quelques années à peine.
Les démocrates ont soumis au vote au Sénat américain la loi sur le droit à la contraception, arguant que l'accès au contrôle des naissances à l'échelle nationale est menacé par les républicains. La sénatrice démocrate Tammy Duckworth.
De nombreux républicains diront que nous sommes trop zélés et qu'il n'y a pas de menace réelle pour le contrôle des naissances. Ils ont dit que nous exagérions lorsque nous avons déclaré que la fécondation in vitro et le droit de fonder une famille selon nos propres conditions étaient menacés.
La loi n'a pas obtenu les 60 voix nécessaires à son adoption. Les républicains ont avancé que ces protections pourrait contraindre certains Américains à enfreindre leur croyance selon laquelle certaines formes de contrôle des naissances sont équivalentes à l'avortement. John Thune, sénateur républicain.
Apparemment, les Américains sont libres de vivre leurs convictions morales et religieuses profondes lorsqu'elles n'entrent pas en conflit avec les positions politiques des démocrates.
Le candidat républicain à la présidence Donald Trump a annoncé publiquement le mois dernier qu'il ne soutiendrait pas une interdiction du contrôle des naissances après que ses commentaires antérieurs aient semblé suggérer le contraire. Les sénateurs républicains ont présenté leur propre projet de loi visant à élargir l'accès au contrôle des naissances, estimant que les démocrates font de la politique en cette année électorale. Joni Ernst, sénatrice républicaine.
Du Sénat à la Maison-Blanche, les démocrates n'ont rien à proposer. Au lieu de cela, ils se livrent à des campagnes de peur au nom de la politique.
Les efforts déployés au niveau des États pour protéger l'avortement, la contraception et la fécondation in vitro pourraient jouer un rôle majeur dans la participation des électeurs démocrates. Annie Dassé est directrice exécutive du SIN Institute of Policy and Politics à l'American University.
Dans les différents États concernés, on constate qu'il s'agit d'un accès ou d'une limitation de l'accès. Il ne s'agit donc pas d'une décision prise par quelques élus. Il s'agit d'un sentiment public et les gens veulent prendre ces décisions pour eux-mêmes.
La campagne de Joe Biden a fait des droits reproductifs un thème majeur. La vice-présidente Kamala Harris ayant été la première vice-présidente à se rendre dans une clinique d'avortement au début de cette année.
Toujours ici aux États-Unis, la Cour suprême a annulé l'interdiction d'un accessoire d'armes à feu qui permet à de nombreuses armes à feu semi-automatiques de tirer comme des mitraillettes. Cette décision maintient la question des armes à feu au centre de la campagne présidentielle. Un reportage de Scott Stearns, le récit est de Rosine Munezero.
Les bomb stocks sont des ajouts après-vente qui permettent aux armes de tirer des centaines de balles par minute. Après une fusillade en 2017 lors d'un festival de musique à Las Vegas qui avait fait 60 morts, le tireur avait utilisé une crosse pour tirer plus de 1000 balles depuis la fenêtre d'un hôtel. L'ancien président Donald Trump avait interdit leur utilisation en 2018. L'ancien président Donald Trump.
Ce matin, nous avons achevé le processus de publication d'un nouveau règlement interdisant les bump stocks.
La semaine dernière, la majorité de la Cour suprême, dominée par des juges conservateurs, a annulé cette interdiction en déclarant que l'administration Trump avait outrepassé son autorité en interdisant les bump stocks. Cette décision a ramené les armes à feu au cœur de la campagne présidentielle. Monsieur Trump a déclaré que les Américains devaient respecter la décision de la haute cour. Vendredi, il a déclaré lors d'un rassemblement pour son 78e anniversaire en Floride que son élection permettrait de sauvegarder les droits d'utiliser les armes à feu inscrits dans le deuxième amendement de la Constitution américaine. Écoutons encore Donald Trump.
Nous devons inciter les gens, les propriétaires d'armes, à voter. Vous n'allez pas garder votre arme très longtemps si vous ne le faites pas, parce qu'ils veulent tout vous enlever. Ils veulent vous priver de vos armes, ils veulent vous priver de vos munitions, ils veulent prendre... Ils veulent détruire le deuxième amendement.
De son côté, la campagne du président Joe Biden a appelé le Congrès à rétablir l'interdiction des bump stocks. La vice-présidente Kamala Harris.
Lorsque nous pensons aux décisions que les électeurs vont prendre en novembre, il y a un contraste évident entre notre position et celle de l'ancien président. N'oublions pas que l'ancien président a dit que les gens devaient s'en remettre en ce qui concerne le problème de la violence armée en Amérique. Prenons donc cela au sérieux. Comprenons que nous avons tous la possibilité de peser sur cette question.
Les partisans de Trump au Congrès soutiennent le droit des propriétaires d'armes à feu d'utiliser des bump stocks. Brian Donalds, membre du Congrès de Floride.
Le bump stock, si vous voulez, n'est en fait qu'une attelle pour les personnes qui ont des blessures au bras et qui continuent à tirer activement. Cela ne signifie pas qu'ils vont cibler les citoyens. Cela n'a jamais été le cas.
Les démocrates au Congrès affirment que la décision de la Cour suprême va entraîner plus de pertes en vie humaine. Adam Schiff, représentant démocrate de la Californie au Congrès de Californie.
Il ne fait aucun doute, il y aura à l'avenir une tragédie utilisant ces armes à impulsion. Et nous nous demanderons tous, pourquoi est-ce nécessaire? Pourquoi devons-nous vivre avec cela?
Près d'un tiers des Américains disent posséder une arme à feu, selon le Pew Research Center. Avant le vote de novembre, la haute cour devrait se prononcer sur notre question concernant les armes à feu, à savoir le droit des personnes faisant l'objet d'une ordonnance restrictive pour cause de violence domestique de posséder une arme à feu.
C'est ici que nous concluons cette édition du Monde aujourd'hui. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez à l'écoute pour plus d'informations et d'analyses sur VOA Afrique. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une excellente journée. Au micro, Nanit Talani, à la réalisation, Firmin Max Kouyaouida, à la technique, Calvin Fowler. Pour rester informé en temps réel, rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, YouTube, X et Instagram.